Yeah. Je vous propose, nous allons commencer, hein. Il y a peut-être quelques retardataires qui nous rejoindront au fur et à mesure. Tout d'abord, je vous remercie de venir à ce deuxième cycle de conférences que j'organise ici à la Maison des Marronniers. Je remercie également toute l'équipe de cet établissement, ainsi que le député maire qui à chaque fois était vraiment très heureux et m'a donné son soutien pour ces différents projets. Je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui étaient là également aux conférences que j'ai données l'an dernier sur les origines de la pensée bouddhique. Je suis content de les revoir également, hein, bien sûr. Cette fois-ci, nous allons étudier quelque chose qui est un petit peu, même beaucoup, différent. Nous allons l'étudier d'une manière autre que le cycle de conférences que j'ai organisé l'an dernier. Est-ce que tout le monde m'entend déjà jusqu'au bout? Bon, ben dans ce cas, je peux parler à voix basse. La manière dont je vous propose de faire les choses cette fois-ci, donc, consiste à étudier les fondements de la pensée traditionnelle chinoise. Pour ce faire, nous allons commencer par, à chaque fois, nous étudierons donc en tout trois des doctrines. Ce ne sont pas toutes les doctrines qui existaient, mais ce serait impossible, ça demanderait beaucoup de temps, qui existaient dans la Chine antique. Nous en étudierons trois, à savoir le confucianisme, les penseurs du Tao, pour terminer, le bouddhisme. Le bouddhisme qui, lui, n'est pas une pensée à proprement parler chinoise, vu qu'il est né en Inde, mais qui a eu un grand retentissement sur la pensée de la Chine et également qui a été lui-même beaucoup modifié par l'apport chinois. La manière dont nous allons procéder, c'est que donc à chaque fois il y aura une première conférence, donc qui est par exemple comme celle que nous faisons aujourd'hui, où je vous dirai un petit peu quelle a été la vie du ou des fondateurs de ces mouvements, les principales doctrines. Et ensuite de quoi, la deuxième conférence, qui en général a lieu 15 jours après, sera un atelier de lecture. Alors qu'est-ce que j'entends par ce terme? C'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, il est remis à chacun des participants un script de ce qu'a été le cours, l'exposé, durant la conférence. À la fin de ce script, il y a un ensemble de citations que je fais figurer. Alors là, vous allez voir, c'est luxueux. On a même fait des citations en bilingue, à la fois en français et en chinois. Ces citations donc vous sont remises, et si vous voulez, vous pouvez les lire durant les 15 jours ou pas, c'est comme vous voulez, mais durant la deuxième session, ces choses-là seront commentées. D'accord? Et on en parlera ensemble, parce que le but, si vous voulez, c'est que vous ayez quand même une vue, bien que on survole, parce que c'est quand même des doctrines qui sont profondes et qui demanderaient beaucoup de détails, notamment sur les conditions dans lesquelles elles sont nées, d'autres choses liées au texte même, à l'écriture, à beaucoup de choses. Donc on fait quand même un survol, mais il n'est pas uniquement à haute altitude. C'est-à-dire qu'on fait ce survol de ces pensées, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas résumer, par exemple, le confucianisme en une heure et demie, donc on survole, mais ce n'est pas pour autant de la vulgarisation, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels on ira précisément. Également sur le script du cours qui vous sera remis, il y a une bibliographie de livres essentiels, 4-5, en général en édition de poche, qui figurent. J'ai également donné cette bibliographie à la librairie qui est dans l'avenue Général de Gaulle, donc comme ça, pour s'il y a des gens qui veulent se les procurer, théoriquement, ça les attend. Ce sont des livres essentiels. Alors, comme je vous l'ai dit, on va faire la chose en trois temps. Le premier, donc, sera Confucius. Ensuite, certains des penseurs d'un mouvement qu'on appelle ici le taoïsme. Et ensuite de quoi, le bouddhisme chinois. Au niveau de ce qui est de Confucius, je compte faire un exposé qui dure environ une heure, et ensuite de quoi avoir un débat ouvert, si vous le souhaitez, donc avec les personnes, durant environ une demi-heure, ou un peu plus, ou un peu moins, c'est comme les choses se passeront. Par contre, si dans le cours de l'exposé, vous voulez intervenir, ou il y a des choses que je dis qui semblent spécialement abstrues ou insipides, n'hésitez pas à vous manifester, parce que je préfère de loin, s'il y a quelque chose qui est peu clair, parce que si c'est peu clair pour une personne, normalement c'est peu clair pour plusieurs personnes. Donc je préfère que la chose soit éclaircie sur le champ, plutôt que je continue d'une manière solitaire et tout droit donc, dans ma direction, sans être compris. D'accord ? Donc, nous allons commencer. J'en profite pour enlever ma veste, parce qu'il fait pas vraiment froid. Alors, on va parler aujourd'hui de Confucius. Alors, tout d'abord, je vais me présenter les choses au niveau global. C'est vrai que la Chine, de plus en plus, fait partie, en quelque sorte, de notre domaine de référence. C'est un pays qui était extrêmement éloigné de nous il y a mettons un siècle, par exemple, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la montée du régime communiste, a commencé à faire un peu parler de lui, mais qui était très inconnu, qui aujourd'hui, d'autant que le pays a été ouvert maintenant et que l'on peut s'y rendre, peut être davantage connu. Peut-être plusieurs personnes qui sont ici sont déjà allées dans ce pays. Par contre, même si nous sommes envahis de biens économiques ou de biens matériels chinois, je crois qu'il y a une chose qui demeure extrêmement méconnue ici, c'est les doctrines de base qui ont formé ce que j'appellerais l'âme chinoise, la pensée chinoise. Ça commence peut-être à être un petit peu connu à travers certaines publications, mais globalement, je crois qu'il y a une méconnaissance très importante. Et comme l'Occident a tendance à le faire, c'est-à-dire à toujours replaquer ses propres modes de pensée sur autre chose, il y a, je pense, une incompréhension qui est grande. Alors on va étudier un petit peu ces penseurs de l'Antiquité chinoise, et je pense qu'à travers eux, on pourra peut-être un peu mieux comprendre l'âme chinoise telle qu'elle s'exprime dans l'art, telle qu'elle s'exprime dans le cinéma, dans différentes choses. Alors, à tout maître, à tout honneur, aujourd'hui on va parler d'un personnage qui s'appelle Confucius et qui est le penseur, je dirais, par excellence, de la pensée chinoise. En fait, c'est le penseur vis-à-vis duquel tous les autres, d'une certaine manière, se sont positionnés, que ce soit pour ou que ce soit contre lui. Et jusqu'à maintenant, il a eu, sur l'ensemble de la pensée chinoise, de l'éducation, même on pourrait dire de l'écriture, parce qu'il a été parmi ceux qui, du moins ses œuvres, sont des choses que tous les jeunes chinois pendant des siècles et des siècles ont appris, ou au moins des choses qui sont tirées de ses œuvres, il a eu une importance qui est inégalée. C'est-à-dire que je pense que vraiment on ne peut pas comprendre la pensée chinoise, même la poésie, même quelques formes d'expression que ce soit, sans avoir une idée de ce personnage qui a été, on pourrait dire, qui a formalisé un certain nombre de traditions qui existaient avant lui, et qui ont ensuite modelé l'âme chinoise. Pour faire un comparatif qui est peut-être qui n'a pas énormément de signification, mais de même qu'on pourrait difficilement comprendre la pensée occidentale sans faire référence au moins aux penseurs grecs, voire au christianisme. Et quelqu'un qui ne connaîtrait absolument, même de peu, ni l'un ni l'autre, a très très peu de chance finalement de comprendre quoi que ce soit au niveau de la pensée occidentale. Dans le cas de Confucius et des autres mouvements dont je parlerai lors des prochaines fois, c'est à peu près la même chose. Alors, pour situer le personnage, donc Confucius est né au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ses dates exactes, c'est -551, -479. Et il a vécu à une période de l'histoire chinoise que l'on appelle, parce que vous savez qu'en Chine, en fait, ce sont des ères qui existent, des dynasties et des vers. À l'intérieur des dynasties, vous avez des noms d'années, mais ce sont des vers. C'est-à-dire que les gens ne se réfèrent pas comme ici, en faisant moins vis-à-vis d'une certaine date et plus vis-à-vis d'une autre, mais il y a un enchaînement d'ères qui existe, et après ces ères, on est passé à un phénomène dynastique. Et donc c'est une autre conception du temps, et c'est pour ça, par exemple, qu'on parle, vous avez déjà entendu l'expression, quand on veut dater un objet ou quoi que ce soit, on dit qu'il est de l'époque des Ming, ou de l'époque des Tang, ou des Han, ou des choses comme ça. Et donc c'est une autre conception du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le temps, une année, deux années, comme ça, etc., qui s'empile au fur et à mesure. Le temps a également une qualité. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, toute la période, je ne sais pas, des Tang, par exemple, c'est quelque chose qui a une unité pour l'historien, qui n'a pas forcément la même unité pour les gens qui y vivaient, hein, parce qu'eux, ils passaient d'année en année quand même, normalement. Mais ça permet, en quelque sorte, dans l'histoire, de faire des grandes segmentations. Donc Confucius, lui, a vécu à une période qui s'appelle celle des printemps et automnes, et qui va de moins 722 à moins 481. Donc on peut déjà voir qu'il a été à une période charnière, parce que comme je vous l'ai dit, lui il est mort en moins 479. C'est-à-dire que les deux dernières années de sa vie ont été les deux premières années de l'ère qui a suivi celle des printemps et automnes, durant laquelle il a passé la majeure partie de sa vie. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'il est mort en moins 479. Alors il faut bien comprendre que c'est du moins. Hein. Bonjour. Donc c'est du moins 479. Donc la période des printemps et automnes, qui a été celle où il a passé la presque toute sa vie, sauf les deux dernières années, s'arrêtait en moins 481. Et donc il y a deux années de sa vie qui ont débordé cette période des printemps et automnes pour entrer dans la période suivante. La période suivante s'appelle la période des royaumes combattants. Et alors, comme le nom l'indique, ça a été une époque de bouleversement et de combat, encore que déjà l'époque de Confucius a été une époque particulièrement troublée. On le verra dans la biographie du maître, mais toute l'époque de Confucius, c'est une époque particulièrement agitée. Alors, je voudrais évoquer un petit peu, justement, ce qu'a été cette époque, parce que ce n'est pas du tout la Chine de l'époque, n'est absolument pas du tout comparable à la Chine actuelle. Pas plus que l'Antiquité grecque n'est comparable au monde que nous connaissons. Alors déjà, à l'époque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que nous appelons la Chine, que les gens à l'époque n'appelaient pas la Chine, mais enfin, cette unité de civilisation, ce n'est pas un pays unifié. C'est un ensemble de royaumes, en tout il y en avait 12, de taille tout à fait variable. Je reviendrai tout à l'heure au point de vue géographique sur le territoire que couvre cette Chine de l'époque vis-à-vis de la Chine actuelle. Donc c'est un ensemble de royaumes et qui souvent entretiennent des rapports conflictuels entre eux. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout un mouvement qui a commencé à cette époque et qui va continuer pendant la période des royaumes combattants, qui va être un mouvement de guerre, pour que finalement, il y a une puissance qui va émerger et qui va créer, là, le premier vrai empire chinois. Et donc, là, on sera dans un empire, c'est-à-dire dans une forme administrative et militaire. Je vais peut-être fermer là la porte, parce que donc, à cette époque-là, la Chine n'est pas unifiée et il y a des luttes et des alliances entre certains des États. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on peut quand même parler d'une ère chinoise pour l'époque? C'est la culture. C'est-à-dire que l'ensemble de ces royaumes, certains sont grands, d'autres sont petits, mais ils partagent, on pourrait dire, certaines formes de culture en commun. Donc c'est ce qui fait qu'il y a quand même une forme d'unité culturelle qui existe. Et Donc, ils partagent un certain nombre de, comment on pourrait dire, de mythes, de conceptions qu'ils ont eux-mêmes de leur propre peuple. Et également, ils partagent un instrument extrêmement puissant qui s'appelle l'écriture. Et entre ces différents pays, même s'il y a des différences de graphie, parfois d'un pays à l'autre, ils utilisent quand même une écriture qui est commune. Alors qui ressemble globalement, on pourrait dire, au chinois actuel, en fait, pour ceux qui ont fait du chinois, pour les formes non simplifiées, sinon que l'écrit est très peu diffusé, parce que évidemment l'imprimerie n'existe pas, et il y a une autre invention formidable de l'humanité qui n'existe pas encore, qui s'appelle le pinceau. Donc le pinceau n'existant pas, la calligraphie n'existe pas dans ces temps anciens, et les personnes qui écrivent sont rares. Bon, il y en a quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui savent écrire, et on se sert pour se faire de petites lattes très fines, c'est de 2 cm à peu près, en bambou, et sur lesquelles on écrit verticalement avec une pointe. Donc contrairement à la calligraphie qui naîtra par la suite, il n'y a pas, évidemment, avec une pointe, il n'y a pas de plein et de délié, ni toutes les formes que la calligraphie chinoise a données, et le but est d'écrire d'une manière lisible. Donc il y a des choses qui sont fixées par écrit, donc sur ces espèces de lattes de bambou, et ces lattes sont reliées entre elles un peu à la manière d'un store. Donc imaginez une sorte de store vénitien, mais qu'on tient dans le sens, vertical. Et donc les lattes, vu qu'on écrit le chinois de haut en bas, les lattes se présentent comme ceci. Et donc les choses sont sur le store, et donc on parle de rouleau, parce que les stores en question peuvent s'enrouler, se dérouler. Donc cette Chine, Confucius, lui, il naît dans un petit pays qui correspond à la région actuelle du Shantung, en fait qui est compris dans cette région, donc qui est un peu, on verra tout à l'heure sur la carte, au centre de la Chine, et qui s'appelle le pays de Lu. Et d'ailleurs, le nom de la période printemps et automne vient d'un classique de cette époque qui peut-être a été compilé par Confucius, au moins par des gens de son époque, et qui s'appelle les printemps et automnes du pays de Lu. Donc c'est le pays dont vient Confucius. Et à sa mort, ça fait déjà 2 ans qu'on est entré dans la période dite des royaumes combattants, et qui finiront en moins 221 par l'établissement du premier empire chinois, sous la férule d'un empereur qui s'appelle Qin Shi Huang II, qui est l'empereur des Qin, et donc Shi Huangdi, ça veut dire le premier empereur des Qin et le premier empereur de la Chine, et celui qui fait qu'il y a du coup une Chine unifiée. Alors, la Chine de cette époque, il faut quelques instants pour nous rejoindre. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est bien. Hop, là. Donc, là, je vais prendre du 220 volts en direct, hein, c'est bien pour moi. Alors voilà, bon, c'est toujours en train de chauffer. Bonjour, comment allez-vous?
Ouais.
Ça va bien, je vous remercie. Ah ben attends, on va vous trouver des chaises. Hein. Il y en a dans la rue. Il y en a à côté là-bas, oui. Alors, on a un léger problème technique. Ce qui est mieux, c'est pas toujours la meilleure. Ah voilà, c'est bien. Bon, je passe, je vous montrerai tout cela après. Voilà.
Voilà.
Oui, ben, vous venez, bien sûr.
Je me suis dit supplémentaire.
Merci, c'est très gentil.
Ça fait 30 ans. Tout.
Voilà. Alors, vous nous rejoignez maintenant.
Oui.
Ah.
Oui.
Alors, tenez, il y a quelques chaises ici. Je ferme la lumière. Hein. Alors, je vous explique un petit peu notre affaire. D'accord. Pour avoir une idée de ce qu'est justement cette Chine de Confucius, la Chine actuelle, peut-être qu'on ne le voit pas très bien ici, est limitée en jaune. Donc la Chine actuelle, si vous voulez, elle fait tout ça. D'accord. Sur la carte en haut, on ne voit peut-être pas très bien, mais voilà une représentation de la Chine. Bon, c'est un peu petit, hein, j'en conviens, hein, à l'échelle du monde. D'accord. Donc la Chine actuelle fait tout ce territoire ici, comme ça. Là, nous avons le Vietnam, ici Taïwan, le Japon de l'autre côté. Et la Chine de Confucius, c'est cette partie-là qui est dessinée ici en rouge. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus petit que la Chine actuelle. Pour avoir une idée, si on compare avec le pays, par exemple, qui est ici, c'est-à-dire la France, tout petit en haut, là, la Chine représente à peu près en superficie 14 fois plus que la France. En population, elle est en plus que 14 fois. Et la Chine de l'époque de Confucius, je ne sais pas exactement, mais représentait environ 2 fois la France, ou peut-être un peu moins de 2 fois. Donc, si vous voulez, c'est effectivement, peut-être, on pourrait dire petit vis-à-vis de la Chine actuelle, mais c'est quand même, par exemple, beaucoup plus grand qu'un pays comme la France, pour avoir une idée. Donc c'est pas minuscule. Hein. D'accord ? Donc, je vais vous remettre la lumière. Je pense que c'est important d'avoir cette idée. Oula. Ça va être la passion pendant tout le... C'est important d'avoir cette idée en tête, d'autant que Confucius est quelqu'un qui a finalement beaucoup erré dans la Chine de son époque. Et donc tous les déplacements, on verra tout à l'heure, tous les déplacements qu'il a fait, finalement, l'ont amené à faire des trajets extrêmement longs. Alors maintenant... Je voudrais maintenant qu'on a parlé un petit peu pour avoir une idée donc de cette Chine avec différents pays qui entretiennent parfois des alliances, parfois des rapports conflictuels, où on sent qu'il y a quand même un phénomène qui est en train de se passer, mais enfin qui mettra plusieurs siècles et qui amènera par la force une Chine unifiée au terme d'une période de guerre qui s'appelle la période des royaumes combattants. On va voir un peu quel était ce personnage qui s'appelle Confucius. Alors, Confucius, c'est un mot en fait latinisé, parce qu'évidemment ce n'était pas son nom réel, et c'est un nom que lui ont donné les jésuites. Je pense que c'est à peu près vers le XVIIe siècle, donc ils ont commencé à être présents en Chine. Et évidemment, ils n'arrêtaient pas d'entendre parler de ce penseur, et eux-mêmes pensaient d'ailleurs qu'ils pourraient faire connaître un certain nombre de penseurs chinois, peut-être qui étaient importants, en Europe, et comme ça se faisait à l'époque, ils lui ont donné un nom latin. Alors, ils ont latinisé un nom, finalement, sur lequel il est pas énormément appelé, en chinois, qui est Kong Fu Tzu. Donc, vous voyez, là, c'est assez proche. Tout ça, vous aurez toutes les notes à la fin de la réunion. Mais en fait, vous pouvez prendre des notes, c'est comme vous voulez. Et Kong Fu Tzu, ou plus simplement, on dit en chinois Kong Fu Tzu, qui aujourd'hui signifie l'enfant, c'est ce caractère-là, à l'époque signifiait bon, l'enfant également, mais également maître et monsieur. Et donc, Kong Zhu, ça veut dire maître Kong. Et en Chine, c'est tout ce nom-là que les Chinois le connaissent, hein, encore aujourd'hui, et à son époque. Donc, c'est maître Kong. Le nom de famille qui est le sien, donc Kong, est un nom... qui n'est pas extrêmement original. Le mot par lui-même signifie, en chinois actuel, signifie un trou. Donc vous voyez déjà, ça commence, ça fait un peu bizarre, mais en fait, beaucoup de noms chinois ont un sens, enfin tous les noms chinois ont un sens, et souvent employés en tant que nom, c'est pas forcément, nous ça nous semble un peu péjoratif. Par exemple, une personne, enfin c'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais une personne qui s'appelait par exemple Mao, qui a été un dirigeant chinois pendant de nombreuses années, qui a mis le communisme à la tête de la Chine. Mao, ça signifie le poil. Hein. Donc là, les poils pileux. Hein. Et donc ce n'est pas non plus un nom qui... C'est un nom qui est très, très, très courant en Chine, mais ça ne fait pas non plus très, pour nous, très sérieux. Donc ça signifie un trou. Alors ça signifie également, il semblerait que ce soit l'origine du nom, ça signifie une montagne, enfin pas une montagne, une colline, légèrement évasée en haut, ou quelque chose comme ça. Donc une colline qui n'a pas une forme pointue ou ronde, mais qui est un petit peu, enfin pas un cratère, mais quelque chose un peu comme ça. Et ce serait l'une des origines du nom. Donc, sur le personnage lui-même, l'ensemble des données biographiques que l'on a proviennent d'un livre qui s'appelle « Les chroniques historiques » qui a été écrit par un nommé Sima Qian et environ au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a sans doute toute une part de la vie, de ce que nous savons de la vie de Confucius qui est probablement légendaire, hagiographique, en ce sens où donc le récit de sa vie le plus détaillé que nous ayons a été écrit à peu près 4 siècles après lui. Mais dès qu'il est mort, ses disciples ont commencé à collecter ses paroles pour en faire des écrits, ce qu'on appelle des entretiens. Et au travers finalement de ces entretiens, on a quand même une personnalité qui se dessine et une personnalité qui a marqué complètement la tradition chinoise. Et on verra un petit peu justement quels étaient les traits principaux de cette personnalité de Confucius. Pour remettre de nouveau une image, on va avoir une image du personnage. Alors évidemment qui a été faite bien après son époque, en ce sens où je crois que c'est une image qui date, si mes souvenirs sont justes, je crois que c'est du 16e siècle ou quelque chose comme ça. Et voilà, là, je crois que c'est bon. C'est pas attention, c'est le roulement. Voilà, alors là on est avec on est toujours avec la carte. Et là, donc je crois que c'était la première. Voilà, voilà. Alors, il serait gentil si le truc Philips s'arrêtait. Alors voilà le personnage de Confucius. Là, je crois que c'est à peu près quand il a une quarantaine d'années, tel qu'il est représenté. Alors, physiquement, on dit que c'était un homme de haute taille. Bon, là, évidemment, il n'y a personne. Mais un homme de haute taille et d'une constitution assez solide. Il est toujours représenté avec ce front très bombé que vous voyez, qui apparaît ici. Et donc ça, il paraît que c'est vrai, c'est un détail effectivement du personnage, il avait ce front bombé, et il est représenté dans la tenue traditionnelle des lettrés. Les lettrés donc sont les personnes qui se réclameront par la suite de lui, et qui sont donc ces personnes, au début ça désignait tous les gens de la petite noblesse, et donc qui étaient les personnes qui pouvaient occuper des emplois, et qui avait appris l'écriture. Et par la suite, après Confucius, ce terme désignera essentiellement les tenants de son école. Et donc, on voit le personnage qu'il a présenté. Là, c'est Confucius, je crois qu'il a à peu près la quarantaine, 40-45 ans, sur ce dessin, qui est assez beau. Et on le voit avec l'habit traditionnel des lettrés, donc avec de longues manches, et avec la barbe. Petite barbe taillée comme cela. Et chose que l'on retrouve sur tous les dessins qui se font particulièrement bombés. Donc, voilà notre. Merci. Voilà notre Confucius. Comment ?
versets, je ne sais plus.
Elle m'arrête. Alors, pour avoir une idée, donc il naît, comme je vous dis, dans un petit royaume qui s'appelle le royaume de Lu, et pour avoir un repère, il est à peu près un contemporain du Bouddha, et certains d'entre vous connaissent bien ce personnage, vu que j'ai fait des conférences l'an dernier dessus, en ce sens où donc le Bouddha est né à peu près 10 ans avant lui, en -563. Il serait également à peu près un contemporain un peu plus jeune de Pythagore, ou alors il est un peu plus vieux que Héraclite, qui est né en -545. Donc si vous voulez, c'est quand même une période où l'humanité a donné quand même des génies qui ont laissé un nom, en ce sens où finalement on a quelque chose d'assez serré qui se passe sur moins de 20 ans, où vous avez à la fois la naissance du Bouddha, de Pythagore, d'Héraclite et de Confucius. Donc c'était une période presque aussi riche en génie que l'époque actuelle. Alors, les conditions et l'extraction de naissance de Confucius ne sont pas extrêmement claires, en ce sens où nous connaissons le nom de ses parents, mais quant au lien qu'il y avait entre ses parents, selon les sources auxquelles on se réfère, même des sources anciennes, ce n'est pas extrêmement clair. Ce qui est certain, du moins d'après ses sources, c'est qu'il y avait une très grande différence d'âge entre son père et sa mère. Sa mère était nettement plus jeune que son père, en ce sens où lui, il avait 70 ans et sa mère en avait 15. Donc ça fait quand même une différence d'âge. Voilà. À 2-3 ans près, c'est un couple... Oui. À 2-3 ans près, c'est un couple bien assorti. Également, alors, déjà, ce qu'on sait qui est sûr, et puis après, on verra ce que des gens ont supposé. Son père était un ancien gouverneur qui descendait d'une famille noble, qui était lui-même un noble, mais un noble sans doute qui n'était pas, extrêmement fortuné, mais c'était un noble qui avait été gouverneur. Sa mère, on a assez peu de détails sur elle, d'après certaines biographies, c'est possible que ça aurait été une sorte de sorcière ou quelque chose comme ça. Sachant que, bon, les sorcières à l'époque, je veux dire, on est dans des cultes chamaniques et des choses comme ça, il n'y a pas du tout de notion péjorative dessus. C'est des personnes qui cueillent des plantes, qui ont un rapport avec la nature et qui peuvent faire office de guérisseurs, de choses comme ça, etc. Je veux dire, on est 6 siècles avant Jésus-Christ. Hein. Mais c'est des gens qui ont un commerce avec les esprits, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais c'est une hypothèse qui existe, on ne sait pas si c'est vrai, mais qui a déjà été émise. Alors ce qui est bizarre, c'est que donc outre cette différence d'âge, importante, on dit que Confucius, entre son père et sa mère, a été le résultat, si on traduit au mot à mot en chinois, d'une union sauvage. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une union sauvage, mais on ne sait pas, probablement, il est possible qu'ils n'étaient pas mariés à l'époque où il était conçu, ou quelque chose comme ça, ou que c'était une rencontre, on ne sait pas. Parce que finalement, pour quelqu'un comme Confucius, on le verra après, qui a énormément développé les concepts de la piété filiale, il y a une chose qui est quand même étrange, c'est que je crois que jusqu'à l'adolescence, par exemple, il ne sait pas où était la tombe de son père. Et donc, pour quelqu'un qui... les Confuciens sont devenus des grands spécialistes des rites mortuaires, et de tous les rites qu'il faut faire lorsqu'une personne meurt après, pendant combien de temps on doit rester en deuil, etc. On verra par la suite, c'est des gens qui ont beaucoup développé l'étude des rituels, c'est-à-dire d'avoir une société dans laquelle le rite a un sens très important. Et donc, on ne sait pas une chose est sûre, en tous les cas, c'est qu'il perd son père décède quand il a 3 ans. Donc il n'aura pratiquement pas connu son père et l'élevé par sa mère. En tant que classe sociale, il appartient à une classe sociale, on pourrait dire, de la ville. Il fait partie de cette classe des lettrés, qu'on appelle en chinois She, et qui est une classe sociale montante, qu'on pourrait dire comme étant de la très petite noblesse, ou une classe qui est comprise entre la noblesse et le peuple. Et donc, si on lit les entretiens de Confucius, on voit qu'il parle avec toutes sortes de gens, et il a un très très bon contact, que ce soit avec des personnages éminents, ou avec des paysans, ou avec des ermites, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sans une classe sociale qui commençait de s'affirmer à l'époque, mais qui était encore une classe sociale extrêmement intermédiaire, et donc il est dans le peuple, que ce soit avec le peuple des campagnes, ou à la cour des grands, ou quoi que ce soit, il connaît les gens à qui il parle. Son père meurt lorsqu'il a 3 ans, et de ce que l'on sait, même pendant sa petite enfance, quand il a 7 ans, quand il a 8 ans, il est attiré par les rites. Alors, les rites, dans la Chine de cette époque, et par la suite, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a des rites pour toute chose. Et ces rites sont déduits, donc que ce soit pour se nourrir, pour répondre à une personne, pour se tenir, comment on doit se tenir physiquement à l'être, quelles sont les choses qu'il doit répondre, quand un prince lui demande quelque chose, doit-il répondre, quand c'est quelqu'un d'autre qui lui demande quelque chose, qu'est-ce qu'il doit répondre, entre plusieurs aliments, qu'est-ce qu'il doit manger en premier, quels sont les aliments qui doivent figurer sur sa table. Tout ça est fixé plus ou moins à cette époque, et les Confucéens vont énormément développer cela. De façon, il y a une sorte d'idée d'arriver quand même à une certaine, pratiquement élégance de la vie. On va voir que c'est une des choses très importantes de la pensée de Confucius, c'est que l'humanité qui est la nôtre n'est pas quelque chose d'acquis. On est sous une forme d'homme, hein, bien entendu, mais l'humanité qui est en nous peut être développée ou peut régresser. On peut avoir des hommes dont l'humanité régresse. On peut avoir des hommes dont l'humanité se développe. Et tout le travail des Confucéens consiste à développer, en quelque sorte, cette humanité qui est en soi. Et on va voir que le principal moyen pour eux, enfin là, je dis ça en termes un peu modernes, hein, peut-être que s'ils m'entendent pas, ils trouveraient ça un peu rigolo, mais le principal moyen de développer cette humanité, c'est avec autrui. Parce que s'il y a bien une chose que nous partageons avec autrui, c'est ce sentiment de l'humanité. Et donc, dans les doctrines confucéennes, je veux dire, ce ne sont pas des doctrines, on pourrait dire, métaphysiques ou de l'introspection, ce sont des doctrines où, à travers le contact, les échanges que nous avons avec d'autres hommes, nous développons l'humanité qui est en nous. Et ce développement de l'humanité, l'homme n'est pas une bête fauve ou je ne sais pas quoi, ce développement de l'humanité qui est en nous ne peut se faire que par le biais de la culture, et par le biais de l'assimilation de sa propre culture, et par le biais de partager cette culture avec d'autres personnes, et d'arriver à une connaissance plus profonde, mutuellement ensemble, de cette culture. C'est l'une des bases, je dirais, des pratiques confucéennes. Donc, dès l'enfance, il est attiré par les rites. Et notamment, il dispose, on raconte qu'il disposait des vases rituels devant lui. À 15 ans, il décide de se consacrer à l'étude. Alors, c'est l'étude de quelques classiques, notamment des classiques de la poésie, vraiment antique, qui venaient d'ailleurs souvent du monde paysan, qui étaient par exemple les poèmes que les garçons et les filles échangeaient entre eux avant les périodes d'union dans la Chine très ancienne, bien avant Confucius. Il se marie à 20 ans avec une femme d'un pays voisin du sien, donc du pays Song, et il a en premier une fille, puis un fils. Malheureusement, cette union tourne court, et quelques années après, sa femme et lui se séparent. En fait, on verra que Confucius est par excellence, d'une certaine manière, on pourrait dire, l'homme de l'échec. C'est-à-dire qu'il entreprend différentes choses et, en général, ça ne se passe pas comme il croyait ou ça ne se passe pas comme on aurait voulu et ça se termine en général pas bien. Donc, ce n'est pas seulement un raté, hein, la preuve c'est qu'on en parle aujourd'hui, si vous voulez, mais quand même, d'un point de vue concret, ça n'a pas été l'homme des grandes réussites. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que tout ce qu'il a entrepris ou presque a raté. Bon, là, c'est le cas de son mariage. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en soi ou non. Mais par contre, il y a une chose qu'il n'a pas ratée, c'est le fait de former des hommes de qualité. C'est pas le but avoué qui est le sien, mais il sait développer l'intelligence des hommes. Oui.
Excuse-moi, mais son père est mort quand il avait 3 ans.
Oui.
Comment a-t-il été éduqué, par qui, par quel monde?
Alors, il a été éduqué essentiellement par sa mère, hein, je pense. Hein. Oui. Et il, comment dirais-je, en tant que fils de lettré, il a le droit à une forme d'instruction qui à l'époque devait être donnée par des sortes de précepteurs particuliers, ou d'ailleurs une petite école ou quelque chose comme ça. Et dès le début, c'est un enfant qui manifeste l'attirance pour les rites et donc l'attirance pour l'écriture. Sa mère, justement, meurt lorsqu'il a 23 ans et à la suite de la mort de sa mère, il prend une période de deuil de 3 ans, c'est la période rituelle. Et pendant 3 ans, donc, en général, il fallait rester à se recueillir, pas très loin de la tombe de la personne en question, et c'est des périodes durant lesquelles on n'entreprend rien et on vit dans un phénomène assez mortuaire. C'était, comment dirais-je, ce n'était pas un rite qui était obligatoire à l'époque. Hein. On pouvait mener des deuils de 1 mois, de 1 an, de 3 ans, c'est long déjà, hein, je crois que c'est le maxi. Certains disciples de Confucius, après sa mort, l'auront fait, et même certains reconduiront des périodes de 3 ans, comme cela. Et donc les gens vivent ces périodes de deuil dans une certaine affliction. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a notamment une phrase célèbre de Confucius à propos du deuil, dans lequel, je vais la rechercher plutôt que de la citer de mémoire. Et voilà, ça c'est pas lui, c'est un disciple, dans lequel il dit « Le deuil va au bout de la douleur et s'arrête là ». Et donc c'est là où on voit qu'effectivement, notamment pour des personnes proches, c'est des deuils qui étaient longs. Parce que le but, justement, c'était d'aller jusqu'au bout de la douleur, causée par la perte d'un être qui est cher. Mais ensuite, il faut que ça s'arrête là. Et donc, lui, à 23 ans, il prend ce deuil de 3 ans. Ensuite de quoi, il revient un peu aux affaires et il aspire à exercer des fonctions. Et déjà, à cette époque-là, il a à peu près une trentaine d'années, il y a des disciples qui commencent à se rassembler autour de lui. Alors, ces disciples qui se rassemblent autour, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on n'a pas affaire à un personnage... Je ne sais pas, comme Jésus-Christ ou quoi que ce soit, Confucius n'est pas quelqu'un qui a une révélation spécifique ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui brille, on pourrait dire, par son intelligence et par son humanité. C'est-à-dire que les gens qui se rassemblent autour de lui, normalement c'est parce qu'il a une bonne connaissance des quelques livres, ils sont rares, hein, classiques qu'il y avait à l'époque, mais c'est surtout que les gens gagnent quelque chose de son commerce. Et effectivement, on le verra davantage par la suite, mais il y a beaucoup de disciples, de grands disciples qui vont se rassembler, qui vont finir par former l'école confucéenne, et donc c'est des gens qui, le fait de d'être en contact avec lui, de recevoir son enseignement, développaient quelque chose en eux, et surtout, bon, c'est quelqu'un, si on lit ses écrits, c'est quelqu'un qui pouvait développer l'intelligence des personnes. Donc les personnes y gagnaient. Bon, il les emmenait dans des aventures extravagantes, hein, mais à part ça, les gens développaient quelque chose en eux. Alors, il aspire à exercer de hautes fonctions parce que tout au long de sa vie, alors, il va essayer de devenir le conseiller d'un prince parce que pour lui, le sage, et il pense être un sage, ça, il en est intimement convaincu dès le début, le sage est quelqu'un qui doit influer sur le monde. Contrairement à un courant qu'on verra par la suite qui s'appelle les taoïstes, où eux, c'est des gens qui se retirent du monde, lui, il ne veut absolument pas, et c'est pas tous les échecs qui vont être les siens qui vont le démobiliser, mais il ne veut absolument pas se retirer du monde. Pour lui, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un rôle dans la société, et de préférence pour un sage comme lui, un rôle essentiel et directeur. Et donc, Confucius, toute sa vie durant, va essayer d'influer sur les événements à travers... l'influence qu'il pourrait exercer sur des puissants. Et donc, il a dans le but de devenir une sorte de ministre ou de conseiller. Le terme de politique est peut-être trop moderne pour l'appliquer, si vous voulez, à ces époques, mais c'est quelqu'un qui a des visées, on pourrait dire, effectivement, politiques sur le cours de la société. Et qui a le but de créer une société où les hommes pourront développer à travers les qualités qui sont les leurs, à travers justement une société qui favoriserait la culture. Alors, il aspire à exercer de hautes fonctions, et lorsque, suite à une sorte de, je ne sais pas comment dire ça, en fait, c'est pas un coup d'État, parce que c'est, en fait, c'était quelques familles qui se combattaient mutuellement, donc il n'y a pas de notion de l'État comme on en a, mais en fait, la personne, le souverain qui est à la tête de la principauté de Lou, où il vit, doit s'exiler, Confucius décide également de fuir son pays, parce qu'il trouve que c'est pas normal, que le gars a été chassé par des gens qui ont été plus forts. Pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas normal, donc il ne peut pas rester dans un pays où il se passe des choses comme ça. Donc, et alors là, on verra qu'il a eu souvent ce genre d'attitude qui ont fait qu'il a énormément voyagé dans le petit morceau de la Chine que je vous avais montré tout à l'heure. Il a énormément marché, il a fait énormément marcher ses disciples. Et du coup, il a vu quand même beaucoup de pays différents. Il a rencontré des hommes de différentes cultures. Donc il se réfugie au nord, dans un pays qui s'appelle le pays de Qi, où il est reçu en audience par le prince local. Alors, en moins 501, il y a une révolte à nouveau dans son pays. Cette révolte est menée par un personnage, alors je le cite parce qu'on verra qu'il a eu une influence sur la suite. Le gars, il s'appelle Yang le Tigre. Or, c'était une sorte d'aventurier qui essaie d'accéder au pouvoir. Et cette personne décide de faire appel à Confucius. Donc c'était une sorte d'usurpateur, d'aventurier. Il connaissait Confucius, je crois, depuis l'enfance. Et il y a aussi une chose qui est un petit peu étonnante. Il paraît que cette personne ressemblait légèrement à Confucius. Enfin, même à tel point, enfin, non seulement légèrement, mais il y a des moments où certaines personnes les ont pris, mais pas des personnes qui connaissaient les deux à la fois, hein, les ont pris l'un pour l'autre. Évidemment, Confucius ne donne pas suite à ce genre d'appel, parce que pour lui, il est hors de question, il veut bien devenir le conseiller d'un prince, mais d'un prince légitime, pas d'un aventurier. Il n'est pas prêt à se vendre à n'importe quel prix. Et donc, il ne donne pas suite à cet appel, et la révolte en question échoue. Confucius revient dans son pays, c'est déjà un homme qui a 52 ans. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que quelque part, il n'a pas fait, lui qui voulait accéder à des fonctions politiques, 52 ans pour l'époque c'est presque un vieillard, hein. On est en 6 siècles avant Jésus-Christ, lui qui voulait accéder à des fonctions politiques, ben, jusqu'à maintenant à 52 ans, il a accédé à rien, donc c'est déjà pas mal, et puis finalement il a beaucoup vagabondé, et il a été de pays en pays, mais par contre, beaucoup des gens, surtout parmi les lettrés, ces classes sociales intelligentes, entre guillemets, qui est une classe montante, qui sont ni qui sont pas forcément des guerriers, qui sont pas des paysans, en tous les cas, il est réputé auprès de ces gens-là. Alors, il revient à son pays, il a déjà une certaine réputation, et là, finalement, il a été loyal et fidèle à la famille qui régnait, vu qu'il a fui son pays quand cette famille a été mise à bas, il n'a pas accepté de rejoindre l'usurpateur, et donc on décide de le placer enfin à 52 ans à de hautes fonctions, et alors là, c'est drôlement bien, il est nommé ministre de la Justice, carrément. Mais pour l'époque, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était un homme d'un savoir, à 52 ans, Confucius était un homme d'un savoir unique pour son époque. Unique vis-à-vis des rites, vis-à-vis de savoir quoi faire, quelles que soient les conditions, et c'est quelqu'un qui brûlait du désir de servir son pays. Et donc, à 52 ans, on le nomme ministre de la Justice et conseiller du prince. Donc là, on pourrait penser que cette longue période de déveine qui a été la sienne est enfin terminée, et qu'il arrive enfin à une position importante. Alors, pendant le peu de temps où il aura exercé de hautes fonctions, il a été extrêmement brillant. Alors, il remporte des succès diplomatiques dans les négociations avec le pays voisin des Qi, qui est un pays dans lequel il s'était réfugié lors de ses errances. L'an suivant, il démantèle... c'est un homme qui, est, quand il décide, il est rapide. Hein. L'an suivant, il démantèle des places fortes des différents clans puissants, donc qui du coup ne sont plus puissants. Bon, au fur et à mesure, je pense qu'il y a quand même tous les gens dont on lutte pour faire ce gouvernement idéal dont il rêve. Tous les gens, les puissants un peu bidons, enfin tout ça, bon, vous voyez, ce genre de personnes, bon, n'ont pas dû avoir envers lui que de la gratitude au fur et à mesure. Je pense même qu'il a dû accumuler une dose de rancune assez importante. Et l'ensemble des succès stratégiques, politiques, même parfois militaires, donc qui sont les siens, enfin qui sont liés aux conseils qu'il donne, suscite la jalousie et l'inquiétude dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce maître de morale qui, dans le pays de Lou, a accédé aux plus hautes fonctions, et tout le monde se rend bien compte qu'il a pris sur le souverain régnant une emprise sans doute complète. Parce que pour le souverain régnant, trouver une personne comme Confucius, c'est vraiment formidable. Parce que surtout lui, qui, ce souverain qui avait, dont la famille avait été dépossédée, qui était revenu au pouvoir, etc., d'un coup, il tombe sur un homme fort, qui lui aurait entièrement dévoué, et qui va miner les différents ennemis de ce souverain, qui va négocier des bons accords avec les pays voisins, c'est l'homme idéal, hein, qui va essayer de se débrouiller. Dans Confucius, quand on lit ses écrits, pour lui, c'est très important que le peuple gagne en richesse et en savoir. Pour l'époque, c'est peut-être pas du tout une, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas une pensée spécialement courante. Et donc, pour le souverain, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, tout va bien, mais le problème, c'est que ça ne va pas durer très longtemps, parce que 2 ans après, un des pays voisins décide de contrecarrer complètement l'influence de Confucius auprès du prince des loups en question. Et alors ça se passait de la manière qui devait le moins plaire à Confucius, en ce sens où le pays voisin des Qi fait cadeau au prince en question d'une troupe de danseuses, alors paraît-il très belle, enfin je suppose, ça devait être fait pour. Alors les textes disent 80, ça fait quand même beaucoup, quoi, mais enfin je ne sais pas, je n'y étais pas, enfin je pense pas. Et donc, du coup, le prince lui passe son temps avec ses danseuses et se détourne complètement de la vie publique. Et alors le moraliste qui est conservatif ne peut absolument pas accepter ce genre de choses, quoi. Et alors là, vraiment, lui, il trouve, à l'époque, c'est déjà un homme de 54 ans, hein. Donc vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hommes de 54 ans qui abandonnent des hautes fonctions ou n'importe quoi, surtout à des époques comme ça, hein. Mais enfin là, Confucius, lui, il pense que c'est pas acceptable une histoire pareille, et démissionne, et s'exile. Là du coup, lui, il ne peut plus revenir dans un pays où il se passe des choses comme ça. Donc, oui, il avait ce côté quand même très... Mais en même temps, je veux dire, c'est assez compréhensible, parce que je veux dire, il fait quelque chose, le moment où les choses ne peuvent plus se faire, autant reconnaître qu'elles ne peuvent plus se faire. Il n'est pas à lui seul contrecarré les 80 danseuses. Et donc, il démissionne, il s'exile, il a 54 ans, et il décide qu'il va offrir ses services ailleurs. Alors là, l'histoire n'est pas très claire, on ne sait pas si à cet âge-là, il voulait offrir ses services ailleurs ou offrir les services de ses meilleurs disciples ailleurs, auprès d'autres cours. Parce qu'il veut quand même arriver à faire, quoi qu'il en soit, régner son idéal d'un gouvernement prospère, conforme au rite, qui se développe bien, qui peut, avoir des... faire une sorte d'unité, enfin peut-être que c'est allé trop loin, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire de la culture chinoise. Si vous voulez, moi je vous conseillerais vivement, il y a un roman... qui est traduit en français d'un auteur japonais presque du XXe siècle qui s'appelle Inoue, qui s'appelle Confucius, et justement dans lequel on assiste à toute l'errance qui va être celle de Confucius à cette époque-là, parce que donc il a 54 ans et il s'exile, et en fait ça va durer 14 ans son exil. Donc si vous voulez, c'est un homme de 54 ans qui part sur les routes sans rien. À part, je pense qu'il devait y avoir une dizaine de disciples, pas plus, avec lui. Parfois un peu plus, dans beaucoup de cas un peu moins. Et là, ils vont avoir une vie très aventureuse et très miséreuse, dans certains cas. Et ils vont aller de pays en pays. Alors bon, là, pareil, hein, tout ce qu'il entreprend, ça va échouer. Il n'y a pas de problème. On verra par la suite, mais par exemple, à un moment donné, il fait le choix d'un souverain dont il veut devenir le conseiller. Il y a des guerres partout. Alors, il faut bien voir, pour les gens de l'époque, ça devait sembler incroyable. C'est-à-dire, les pays étaient en guerre, il y avait des mouvements de troupes dans tous les sens, Et puis, il y avait une dizaine d'intellectuels qui se promenaient au milieu de ça, qui devisaient, qui disaient, oui, le mieux pour un pays, c'est ceci, c'est cela. Voici la manière dont on doit conseiller le peuple, dont on doit conseiller le souverain. Et ces gens-là erraient comme ça, en allant d'un point à l'autre dans la Chine. Alors, ils suivaient certains souverains pour essayer de se rapprocher des armées. Par exemple, lui, il a mis quelques années pour rejoindre l'un d'entre eux. Et avant qu'il ait pu avoir une audition avec le personnage en question, le gars, il a été tué. Donc c'est une période d'errance, et dans cette période d'errance, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'incident de Kuang, donc c'est une petite ville, où je vous ai parlé tout à l'heure de sa ressemblance physique avec le personnage qui s'appelait Yang le Tigre. Donc bon, déjà vous voyez, le gars qu'on appelle le Tigre, c'est pas forcément quelqu'un de doux, et donc cette personne qui avait essayé de prendre le pouvoir et qui avait été chassée. Quand il arrive Confucius dans la ville de Kuang, les gens pensent qu'il est le tigre, il est Yang le tigre. Et donc les gens s'emparent de lui, ils veulent le mettre à mort, ils veulent le juger, le mettre à mort. Et Confucius, lui, il n'est absolument pas troublé par le fait que ses disciples, eux, sont extrêmement alarmés, parce qu'ils pensent que leur dernière heure est venue. Et Confucius, lui, il n'est pas spécialement troublé, et puis même, à mon avis, il est si peu troublé, c'est un bon musicien. Il jouait du luth, et amenait, pendant que les gens délibèrent de comment ils vont le mettre à mort, s'ils vont le mettre à mort oui ou non, lui il accorde son instrument et il commence à jouer. Et il leur a dit qu'il commettait une méprise, que c'était idiot, qu'il n'était pas ce personnage-là. Et donc les gens, quand ils voient qu'il a si peu peur et qu'il commence à jouer de la musique, ils se rendent compte de leur d'une certaine manière, enfin, ils évitent à le mettre à mort. C'est une époque pourtant qui était expéditive. Mais on évite à le mettre à mort et finalement il est relâché. Et donc ça montre bien, à travers certains incidents, la vie extrêmement aventureuse qui va être la sienne. Quand on voit cette chose dans ses entretiens, il en parle avec ses disciples, enfin ses disciples qui lui en parlent, ses disciples, eux, ils ont eu vraiment peur. Confucius, a priori, lui, il n'avait pas eu peur, lui, il a fait de la musique. Et donc, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais il y a un disciple qui lui dit, ça c'est bien le coup de leur avoir joué du luth quand les autres ils voulaient vous mettre à mort. Très bien comme chose. Et Confucius vraiment leur dit que ce n'était absolument pas une tactique ou quoi que ce soit pour, comment dirais-je, pour influencer ces gens-là ou pour faire le malin. Mais Confucius, il leur dit, mais c'est évident que ces gens ne pouvaient pas me mettre à mort. Il dit, parce que je suis actuellement... Donc il avait une très haute idée de sa mission. Il dit, je suis le... Je ne me rappelle plus le terme qu'il emploie exactement, mais il dit, globalement, je suis le réceptacle de la... l'unique réceptacle de la culture maintenant. C'est moi qui contiens la culture. Donc si le ciel avait voulu que la culture soit anéantie, je n'aurais pas vécu jusqu'à ces années-là. Donc, ces gens-là ne peuvent pas détruire la culture. Donc, ils ne peuvent pas me détruire. Donc, il avait une vue très, très haute de sa propre mission. Et autant pour lui, il lui fallait avoir cette vue haute, parce que finalement, il a été de déconvenu en déconvenu. Mais, au bout du compte, on pourrait dire que même s'il n'a pas réussi avec les princes locaux de son époque, son enseignement a complètement transformé la Chine, la pensée chinoise. Donc même s'il n'a pas eu un succès de son vivant. Alors, dans le même registre, à peu près, à un moment donné, il y a des troupes de différents États qui ont encerclé lui et ses disciples et qui comptaient les réduire à la famine. Et finalement, c'est des troupes d'un autre État qui ont dû le délivrer. Pendant ce temps-là, dans son pays, l'un de ses disciples, qui s'appelle Lan Xiu, font que cette personne devient conseiller, a un rôle important à la cour, et Confucius pense que dans ce cas-là, lui peut rentrer. Il n'a plus besoin de chercher à conseiller de nouveaux princes. En plus, il a été finalement de déconvenu en déconvenu, et il décide qu'il peut rentrer dans son pays. Il rentre, c'est déjà un homme qui a 68 ans. Et là, il fonde vraiment une école, et on pourrait dire qu'il commence peut-être à s'inquiéter un peu de la postérité, et là, effectivement, il donne des cours et il reçoit des disciples. En 482, il va avoir 70 ans, il est extrêmement affecté par le décès successif de son fils, de son propre fils, et, mais qui était pour l'époque était mort à un âge tout à fait normal, hein, il avait plus de 50 ans, Et de son disciple, alors ça l'affecte encore peut-être plus, de son disciple Yan Rui, qui était son disciple le plus proche. Et à partir de là, les choses, lui continue à enseigner, mais les choses pour lui, encore une fois, vont de mal en pis. Dans un pays voisin, le souverain est assassiné. Confucius trouve que c'est pas normal qu'on tue les souverains. Et il demande à la cour une intervention militaire et personne n'en tient compte. Chose qui pour lui est également grave, alors bon, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée de ces époques-là. Lors d'une partie de chasse, il y a une licorne qui est capturée, qui est abattue. Alors vous voyez, ça arrive pas tous les jours. Et la licorne, symbolisant la justice et ce qui est droit, ce qui est correct, Confucius voit dans ce signe la preuve du dérèglement et de l'insuccès complet de la mise en pratique de ses propres enseignements. Alors, il commence à partir de là à se rapprocher des classiques, pourtant qu'il n'a pas cessé d'étudier toute sa vie, et c'est un fait qui est contesté actuellement par pas mal d'historiens, mais il se serait livré à un travail de compilation des classiques, qui donne les classiques chinois de l'Antiquité tels que nous les connaissons, c'est-à-dire le livre des Odes, le livre des Printemps et Automnes, quelques autres livres classiques. Et donc ce serait Confucius qui aurait effectué ces compilations. Actuellement, c'est pas certain du tout, on ne prête qu'aux riches, mais c'est vrai que même si Confucius n'a pas fait la compilation de ce qui est devenu ses livres par la suite, il y a sans doute contribué parce qu'on voit qu'il les cite énormément lors de ses entretiens. Et donc, quand on dit compilation, c'est pas simplement le fait de recopier et de laisser sous une forme écrite, mais c'est souvent le fait de mettre presque, je dirais, pour la première fois par écrit. C'est-à-dire que c'est des choses qui étaient de tradition orale, et donc c'est le fait de les fixer par écrit. Et donc dans la manière dont on les fixe avec les termes qu'il a employés, on peut dire que c'est ça, et cette manière d'écrire, qui a formé la langue chinoise classique. C'est-à-dire que c'est à partir de ces classiques, à partir des entretiens de Confucius, à partir de quelques autres livres, la grande étude qu'il a écrite, enfin pas qu'il a écrite, que les gens ont pris, ont écrit en se souvenant de ses paroles, c'est même pas sa vérité, c'est en se souvenant de ses paroles, que finalement c'est constitué le chinois classique. En 480, un autre grand disciple qui s'appelle Zulu meurt, et en 479, c'est le décès de Confucius lui-même, qui a 72 ans. Alors, je peux vous montrer une image. Attendez, rallumez juste, s'il vous plaît, juste un instant, pour que l'appareil se remette en route, de la tombe de Confucius dans son village natal, dans le pays de Lu, à Chukchi. Alors lui-même, si vous voulez, il avait résumé vers la fin de sa vie ce qu'a été sa propre vie avec les événements importants de sa vie, et il disait « À 15 ans, ma volonté s'appliquait à l'étude. À 30 ans, j'étais affermi. À 40 ans, délivré du doute. À 50 ans, je connaissais le décret du ciel. À 60 ans, mon oreille se pacifia. Et à 70 ans, en suivant les désirs de mon cœur, je n'enfreignais plus aucune règle. » Voici ce qu'un homme qui a plus de 70 ans dit de sa propre vie. Alors, je ne sais pas si l'image vous est apparue. Là, c'est bon. Ça rallumer parce que là je crois que je suis trahi par la technique. Hop, ah voilà. Alors voilà donc les différentes images. Alors, c'est dommage, toutes n'ont pas pu être projetées par cet appareil. Donc ça c'est Confucius aux alentours de 45 ans. Ça je vous l'avais montré, c'est la carte de la Chine de l'époque. Voilà, ça c'est un temple confucéen. Je ne me rappelle plus où c'est, je crois que c'est à Taïwan peut-être, parce que le confucianisme est devenu également une religion, la religion des lettrés. C'est une religion qui était bon, pas aucun dieu, etc., mais qui était peut-être la religion des maîtresses, c'est-à-dire pas du peuple, pas des paysans. Pour les paysans, c'est davantage les différents cultes animistes ou le taoïsme qui reprennent les traditions très anciennes du peuple chinois. Alors voilà la tombe de Confucius dans le village qui était le sien. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. On n'en a plus. On peut rallumer les bouquins. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que vu que là on a déjà bien avancé, c'est la prochaine fois, nous verrons la pensée de Confucius. On a déjà commencé un petit peu à l'aborder. Et également, comme je vous l'avais dit, donc on verra des extraits de ses œuvres. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réflexions ou quoi que ce soit. Là, on peut en débattre pendant quelques temps. Oui ? Oui, oui.
En fait, est-ce qu'on peut l'assimiler à quelqu'un comme Socrate qui disait que par le questionnement, chacun a une vérité en lui et qu'il suffit de poser des questions pour qu'il dise la vérité. Est-ce que c'était ça sa pratique ou est-ce qu'il avait une autre technique? Est-ce que c'était juste par la parole?
Oui. Alors, je pense que c'est quand même différent. Mais ce que je crois, et ce que ça nous aidera peut-être, c'est que dans un premier temps, il vaut mieux pour nous, pour comprendre, ne pas faire du tout de parallèle entre la pensée occidentale et la pensée chinoise de l'époque. Il y a peu de liens qui existent, je veux dire, historiquement parlant. Parce que, alors Confucius n'est pas du tout quelqu'un qui pense que chacun a la vérité en lui, hein, ou que ça sert comme Socrate, ou que ça sert à quoi que ce soit de se connaître soi-même. Alors lui, c'est complètement pas du tout son problème. Donc lui, vous voyez, il se place complètement à un autre registre. Lui, il pense qu'on accède à l'humanité. Il ne faut pas être seul pour accéder à l'humanité. Donc le fait qu'il y aurait une sorte de vérité, existentielle, subjective, qui serait en moi ou quoi que ce soit, alors ça, Confucius, là, c'est le genre de choses auxquelles il ne se prononcera jamais. Lui, il pense, par contre, dans la journée, je vais rencontrer des êtres humains, normalement. Et donc, comment faire qu'avec ces êtres humains, les choses se passent pour le mieux, et que, et moi, et eux, on puisse développer l'humanité qui est en nous. Vous voyez, c'est que c'est quelqu'un qui est assez qui est actif, hein. D'ailleurs, on le voit tout au long de sa vie, hein, même si les succès ne sont pas éclatants. Et donc, il n'est pas du tout dans le registre de quelqu'un comme Socrate, qui pratique une sorte de maïotique, qui veut faire... C'est pas du tout son truc. Lui, on l'a souvent défini, d'une manière un peu drôle, comme étant un utopiste du passé. C'est quelqu'un qui croit qu'il y a une utopie, mais n'est pas dans le futur et dans le passé. Mais probablement que le passé qu'il imaginait ne correspond pas au passé historique, hein, réel. Et donc... Confucius, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des dérèglements et qu'on peut remédier aux dérèglements en mettant les rites en place et en mettant en place les rites qui ont été pratiqués par de grands empereurs ou de grands généraux ou de grands sages du passé. Et donc il n'est pas du tout dans une démarche qu'on pourrait appeler socratique ou autre, c'est pour ça que c'est complètement une autre école de pensée. Hein. C'est-à-dire que lui, par contre, ce qui est important, c'est non pas que les gens... Je ne crois pas qu'il y a, par exemple chez Confucius, il n'y a pas l'idée d'une vérité. On peut développer les qualités de quelqu'un. La vérité, je veux dire, lui, il dit qu'il y a des choses sur lesquelles il ne se prononce pas du tout, et puis ça a l'air de le barber sérieusement. Et je crois que une notion comme ça d'une certaine vérité, ça en fait partie. C'est-à-dire que comment faire qu'avec la personne, on développe quelque chose. Donc on est tout à fait dans un autre... c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il est mal connu ici, parce que justement, il n'y a pas une doctrine. On aurait du mal à sortir une vraie doctrine confucéenne. Par exemple, beaucoup de penseurs de l'Antiquité ou quoi que ce soit arrivent à une sorte de principe premier qui explique toute chose. Par la suite, les extensions de ce principe expliqueraient toute chose. Confucius, lui, n'arrive pas du tout à ça. Il dit que toutes ces choses en quelque sorte de domaine métaphysique ne déclenchent pas son intérêt. Par contre, ce qui lui semble intéressant, c'est de créer une société dans laquelle les hommes, ensemble, développent quelque chose de plus. C'est pour ça que je crois que ici, dans le domaine des connaissances qui sont les miennes, il n'y a pas grand monde de qui on puisse le rapprocher, surtout parmi les anciens. Ce que je crois aussi, c'est que le fait qu'il y ait eu un penseur comme Confucius dans l'Antiquité chinoise, fait que par la suite, la pensée chinoise n'a pas pu aller vers une sorte de direction métaphysique comme l'a fait la pensée occidentale, d'une certaine manière. pour ça que le, comment dirais-je, le, dès l'Antiquité, même si c'est à travers le, certaines formes de, d'hérésie comme le nestorianisme, ou des choses comme ça, il y a des formes de christianisme qui sont arrivées en Chine, ça n'a pas eu un succès retentissant. Après, il y a eu l'islam, ça n'a pas eu non plus un succès extrêmement retentissant, c'est facilement qu'on puisse dire. Le bouddhisme, ça a beaucoup mieux marché, parce que justement, là, on se retrouvait un peu comme avec le courant de Confucius ou du taoïsme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des religions sans Dieu, entre guillemets. Mais les grandes pensées métaphysiques qui expliquent, je sais pas quoi, la création du monde, des choses comme ça, dès le début, avec Confucius, en quelque sorte, le pli qui a été pris n'allait pas du tout dans cette direction. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le succès de la pensée de Confucius, c'est qu'il a pu servir le pouvoir tout au long de l'histoire de la Chine ?
C'est pas évident. Parce qu'en fait, tous les gens, les empereurs qui ont voulu faire quelque chose d'important et changer vraiment la mentalité ou l'histoire chinoise, la première chose qu'ils ont fait, c'est de persécuter les Confucéens. Et le dernier qui a fait ça, c'était pas l'empereur, mais c'était Mao. Et c'est sûr que pour n'importe qui voulait complètement changer la Chine, il y avait un problème, quelle que soit l'époque, hein, mais il y avait un problème, c'était Confucius et la pensée confucéenne. Parce que c'est une pensée, on le verra davantage quand on étudiera les textes, mais c'est une pensée qui s'immisce beaucoup, en quelque sorte, dans le raisonnement, et qui fait qu'il y a un pli qui est pris. Et qu'après, on ne peut pas effacer ce pli. Ou alors, le moyen de l'effacer, c'est d'enlever le confucianisme. Et par exemple, à la fin de la période des royaumes combattants, le premier empereur chinois, qui s'appelait Qin Shi Huangdi, a voulu supprimer complètement ce courant de pensée. Et c'est un homme, bon, c'était le premier qui a unifié la Chine, qui a commencé la construction de la Grande Muraille. Donc c'est un gars qui pensait qu'il y avait peu de choses qui lui étaient impossibles. Et la première chose qu'il a pensé, s'il faut supprimer Confucius, il faut supprimer les livres. Si on supprime les livres, ça peut être bon. Et donc, déjà à cette époque-là, il y avait du papier qui existait. Et donc, partout, ils ont fait des grands autodafés dans le pays. Et il y a de nombreux Confuciens qui allaient aux autodafés en disant « Bon, ben oui, mais moi, je connais par cœur les classiques. Donc, si vous brûlez le livre, vous me brûlez moi aussi. Parce que sans ça, ça continuera à vivre à travers moi. » Et par exemple, beaucoup plus proche de nous, à l'époque de Mao, il y a eu des grandes campagnes en Chine de déconfucianisation, je ne sais pas si le terme existe, et donc qui visaient à faire que que la pensée de Confucius soit extraite des cerveaux chinois. Et ça a moyennement marché, et à un moment donné, l'idée qui avait été prise pour y arriver, c'est qu'il fallait supprimer l'écriture. Et supprimer l'écriture, c'était passer à notre mode d'écriture, à nous. C'est-à-dire supprimer les idéogrammes chinois, en fait. Et ils ont essayé, ça a marché pendant quelques jours, hein, pas plus. Parce que bon, le pays était tombé à un niveau d'anarchie totale. Mais effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'on s'est servi peut-être d'un mauvais confucianisme pour faire une sorte de morale un peu préchi-précha. Des pouvoirs un peu mous ont essayé également de s'en servir pour avoir une sorte d'armature idéologique vaguement. Mais les pouvoirs durs, eux, se sont rendus compte que les vraies dictatures, etc., que ce qu'il fallait, c'était supprimer le confucianisme. Parce que c'est quelque chose où les personnes apprennent à penser. Et il ne faut pas que les gens apprennent à penser parce que ça, après, ils peuvent penser différentes choses. Oui ?
Moi, je fais le justement, obéir à certains codes, est-ce que c'était une première façon de codifier certains rapports entre humains ?
Oui.
Par exemple, à telle façon de faire, ça allait répondre de telle façon.
Oui.
Oui. On peut dire que c'est déjà le début d'une espèce de codification entre les.
C'est une formalisation de code qui existait. Mais on pense, la vue qu'on a maintenant, c'est qu'on pense que la société chinoise, enfin alors là, bien avant Confucius, tout était déjà réglé par beaucoup de codes. En fait, dans la manière dont les gens se mariaient, c'est-à-dire quel garçon pouvait voir quelle fille, à quelle période de l'année, etc. Tout ça, c'était déjà vraiment dans une civilisation. Il faut bien voir que la Chine est sans doute le seul empire qui existe à l'heure actuelle, enfin même si la Chine actuellement ne se prétend pas du tout impériale en quelque sorte, qui corresponde à un grand empire de l'Antiquité. Donc cette pensée, je pense, a sans doute fourni une forme d'armature, mais simplement parce qu'elle a codifié des choses qui existaient préalablement et qui déjà se répétaient de génération en génération. Et si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses. Par exemple, la Chine actuelle qu'on a vue tout à l'heure sur la carte correspond à peu de choses près, hein, même si on voit le tracé de la Grande Muraille ou des choses comme ça, à la Chine du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent, par exemple, dans le monde. Si on prend les grands empires de l'époque qu'il y a eu, je ne sais pas, l'Empire égyptien, l'Empire romain, aujourd'hui vous n'avez plus d'Empire romain, hein, en tant qu'il dépendrait de Rome ou d'Italie ou quoi que ce soit, l'Empire égyptien pareil, même les grands empires qui ont existé par la suite, l'Empire mongol n'existe plus en tant que tel à aujourd'hui, l'Empire turc non plus. Donc vous voyez que dans l'histoire de l'humanité, quand il y a eu une grande extension comme ça, c'est arrivé à couvrir, on l'a vu, la Chine actuelle, ça fait 14 fois la France, hein, pour avoir une idée de superficie, tous ces pays qui ont réussi à couvrir une très grande étendue comme ça de peuples divers ont existé pendant un certain temps. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'exemple de la Chine est unique, parce que la Chine de l'Antiquité, enfin, deux siècles avant Jésus-Christ à peu près, est à peu près sur une carte, pas tout à fait, mais à peu près la Chine actuelle. Bon, il y a que le Tibet qui est un peu différent, mais... Oui.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, finalement, dans la Chine moderne, de Confucius après Mao, après tout ça, puis après ce grand pragmatisme maintenant des valeurs finalement capitalistes, qu'est-ce qu'il en reste et qu'est-ce que les Chinois en gardent?
Je ne sais pas trop répondre, si vous voulez, parce que je ne connais pas bien la Chine actuelle. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une manière de penser, même qui est induite dans le langage. Il y a une manière de penser qui est induite dans le langage, qui est induite, je pense que c'est incroyable. Moi, je voyais, il y a un petit livre que les Chinois apprennent depuis le XIIIe siècle, qui a tenu à peu près jusqu'au XXe, dans lequel on apprend à lire, on apprend à compter, on apprend à peu près les galaxies dans le ciel, l'histoire, etc. C'est un livre où à chaque fois, chaque ligne fait 3 caractères, donc vraiment pour commencer à apprendre. Et donc, c'était un petit livre d'éducation qui a duré à peu près 7 siècles. C'est-à-dire qu'il y a une forme de permanence. Et je ne sais pas exactement quelle est la pensée, mais Confucius a survécu à tout. Il a survécu à différents empereurs, il a survécu à l'Empire mongol, il a survécu au communisme, il a survécu à pas mal de choses. Donc je crois que il a survécu, si vous voulez, parce que ce n'est pas un système de pensée, en quelque sorte. Ce n'est pas une doctrine. On le verra mieux la fois prochaine, c'est une attitude. Ses disciples, quand ils parlent de lui, reconnaissent en quelque sorte qu'il a toujours, au niveau de la pensée, un temps d'avance. Et donc c'est cette notion, c'est-à-dire de quelqu'un qui, vis-à-vis d'une situation précise, peut produire une pensée très, très juste et très brillante. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, je pense qu'il a été extrêmement peu connu, parce que je ne crois pas qu'on puisse résumer tellement sa doctrine par en disant « il croit dans ça », ou « il pense qu'il y a telle chose ou tel principe qui est fondateur ». Ce qu'il croit, c'est que les relations entre les hommes doivent être définies. C'est une relation précise qui doit exister entre un père et un fils, entre un mari et une femme, entre un frère aîné et un frère cadet, entre un suzerain et un vassal. Et donc, pour lui, c'est le désordre quand ces relations commencent à être inversées, comme ça. Et aussi, pour lui, ce qui est important, c'est les mots avec lesquels on parle et c'est les mots avec lesquels on pense. Si on arrive à une certaine acuité du langage, on pense mieux, on parle mieux. Le but, c'est pas de parler mieux, c'est déjà de penser mieux. Mais donc, faire attention aux choses. Oui.
Qu'est-ce qu'il a pensé à l'écriture ?
Alors, en fait, c'est assez difficile à répondre, parce que si on prend la géographie officielle, il a apporté énormément, vu que ce serait lui qui aurait codifier les classiques, qui en aurait fait la transcription. On pense aujourd'hui que c'est probablement pas vrai. Par contre, au niveau de l'écriture, enfin de la graphie, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il ait apporté grand-chose, mais ce qu'il a fait, c'est que, enfin c'était le résultat de son œuvre, c'est que ses entretiens, donc qui est un livre des entretiens qu'il a eu avec différents disciples, avec différents personnages, a été quelque chose qui a été énormément diffusé dès la Chine antique. Et le fait que ce livre a été beaucoup diffusé, ainsi que quelques compilations qui a été faites par lui ou par ses disciples, font qu'il y a un langage écrit et savant commun qui a pénétré les différentes régions de la Chine. Et donc il a sans doute concouru à l'unification du chinois ancien et classique. À mon avis, alors attention, l'Empire du Milieu, c'est le pays, si on voulait traduire au mot à mot, ce serait le pays du milieu. Alors je pense qu'elle date, à mon avis, de l'Antiquité, parce que c'est un peu cette notion qu'avaient les Chinois de leur propre monde, c'est-à-dire qu'ils occupaient une place centrale sur Terre, et que les autres peuples dont ils avaient connaissance, enfin certains ils en avaient connaissance de manière un peu dure, c'était les envahisseurs du Nord, mais que les autres peuples dont ils avaient connaissance étaient des peuples périphériques, et que eux étaient centraux. Et ça, je crois que cette notion que la Chine se définisse comme un milieu, c'est quelque chose qu'on trouve dès l'Antiquité de l'histoire la plus reculée. C'est qu'en Chine, ici, il y a 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. En Chine, il y a 5 points, donc ils sont plus forts. Il y a 5 points cardinaux. Il y a le centre. Le centre aussi est un point cardinal, peut-être même le plus important, je ne sais pas. Et donc, la Chine s'est toujours vue elle-même comme étant au centre du monde. Et au centre de la culture. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans la Chine, même antique, même s'il y avait différents petits pays ou quoi que ce soit, mais je crois que les gens se rendaient compte qu'ils partageaient une même culture. On voit par exemple que même quelqu'un comme Confucius, il avait 20 ans, il avait épousé une femme d'un pays voisin. Donc c'est-à-dire qu'effectivement ces pays pouvaient être des pays en guerre les uns contre les autres, mais je ne crois pas que les gens leur sentaient comme étant les gens du pays d'à côté comme une autre nationalité. Vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, comme au Moyen-Âge les Français et les Anglais ou quoi. C'est-à-dire que vraiment là c'était quelqu'un de complètement différent. Et Confucius avait épousé une femme qui venait d'un autre pays, mais ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Et lui-même, quand il n'était pas bien dans son pays, on l'a vu, il partait dans les autres pays. Ça semblait quelque chose de tout à fait ordinaire pour l'époque. Mais écoutez, je vous propose, si vous êtes d'accord, que nous arrêtions là pour aujourd'hui, que pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouvions donc dans 2 semaines exactement. On nous a préparé gentiment le script du cours et les quelques textes qu'on verra la fois prochaine. Et donc, effectivement, la fois prochaine, donc, nous verrons quelles étaient les lumières peut-être plus précises aujourd'hui, je l'ai un tout petit peu abordé, mais quels sont les grands principes de la pensée confucéenne, et puis on le verra également un certain nombre de citations. Dans le script, comme je vous l'ai dit, il y a quelques bouquins que j'ai mis, c'est toujours des livres de poche, hein, que j'ai mis, qui sont peut-être des livres de référence. Vous pouvez les consulter, puis comme ça vous permettra de vous rendre compte si je dis beaucoup de blagues ou pas. Merci.